Radio HLM.
La précarité sur le palier, la solidarité à chaque étage.
Galade. 100.9.
Bonjour chers auditeurs, nous sommes les élèves de la classe de première ST2D2 du lycée Louis-Armand de Villefranche. Notre classe a participé à un atelier radio d'éducation aux médias et à l'information avec Radio Galade. Nous avons préparé l'émission d'aujourd'hui ayant pour thème la précarité et la solidarité. Notre émission a pour titre Radio HLM, la précarité sur le palier, la solidarité à chaque étage. Dans cette émission, nous allons procéder à plusieurs interviews d'associations locales qui agissent dans ce domaine. Ce sont l'antenne locale de la Croix-Rouge française, l'épicerie solidaire L'Oasis d'Amour, l'association Les Bras Ouverts et l'antenne caladoise du Secours Populaire Français. Nous vous donnerons aussi des informations extraites du rapport national de 2022 du Secours Populaire sur l'état de la pauvreté en France. Entre chaque interview, nous vous proposons des musiques évoquant la précarité. Bonne écoute. Radio HLM.
La précarité sur le palier, la solidarité à chaque étage.
Après 2 ans marqués par la crise sanitaire, la 16e édition du baromètre de la pauvreté et de la précarité du Secours Populaire Français met en lumière la difficulté pour une grande partie de la population de subvenir à ses besoins, en pleine flambée de l'énergie et de l'alimentation. Avec l'envolée des prix et de la pression sur les revenus, pour beaucoup, les conditions de vie se sont détériorées en 2022. Transport, énergie et alimentation, c'est pour des postes de dépenses aussi essentiels que les difficultés ont le plus augmenté cette année, à en croire les personnes interrogées. Près de 1 Français sur 2 rencontre des difficultés pour payer de l'essence et autres coûts liés au transport. À peu près autant de personnes sont fragilisées par le paiement de leurs dépenses d'énergie.
Si ces deux postes de dépenses engendrent des inquiétudes et des contraintes jamais vues depuis 2017, l'alimentation est également devenue un enjeu pour plus d'un tiers des Français qui peinent à consommer des fruits et légumes frais tous les jours. Il s'agit d'une augmentation de 5 points par rapport à 2021, qui est une année marquée par l'augmentation de 20% des personnes à venir dans les libres-services de la solidarité pendant et après les confinements, principalement pour recevoir de l'aide alimentaire. La flambée des prix dans le domaine du transport, de l'énergie, de l'alimentation affecte l'ensemble des Français, mais frappe particulièrement les ménages dont les ressources se trouvent dans le bas de l'échelle des revenus, soit moins de 1 200 € net par mois pour un foyer. Les 2/3 de ces personnes ont du mal à faire face à cet ensemble de dépenses essentielles. Ils se déclarent fragilisés par le frais de transport et pour des dépenses d'énergie, et à nouveau la même proportion quand il s'agit de consommer des fruits et légumes frais tous les jours. Ces chiffres montrent le choc que subit un groupe particulièrement vulnérable qui ne représente pas moins de 20% de la population française.
Bonjour Monsieur Guillot et Madame Bio, vous êtes respectivement président et responsable de l'alphabétisation pour la Croix-Rouge de Villefranche. Pouvez-vous vous présenter rapidement et nous parler de votre parcours dans votre association et pourquoi l'avoir choisi spécifiquement ?
Oui, bonjour. Donc je suis effectivement président de l'unité locale Beaujolais Val de Saône, qui va de la vallée d'Azergues jusqu'en dans les hauteurs du Beaujolais. Et on regroupe à peu près 200 bénévoles. On est implanté sur Villefranche, sur Beaujeu, on s'implante sur Belleville. Et mon parcours, écoutez, je suis président depuis 3 ans. Je suis un ancien élève de ce lycée, mais ça date d'hier, puisque c'était en 1975. Et donc voilà. Et puis aujourd'hui, on est une équipe qui faisons pas mal d'activités sur la Croix-Rouge et sur Villefranche. Et je vais laisser la parole à Martine, qui est sur ma gauche.
Bonjour à tous. Moi, je suis à la Croix-Rouge il y a 9 ans. Donc, ancien prof de physique. Je suis arrivée à la Croix-Rouge en me disant, oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire à la retraite ? Et j'avais entendu pendant toute ma carrière cette rengaine. Le niveau baisse, de l'enseignement baisse. Et bien sûr, Eureka, mais moi j'ai trouvé la solution. Il faudrait apprendre aux familles étrangères le français. Qui pourrait aider les enfants étrangers à mieux suivre la scolarité ? Et à la Croix-Rouge, j'ai ouvert la porte et on m'a proposé cette activité. Donc, c'était ma démarche initiale. Et puis, petit à petit, j'ai pris la responsabilité de l'alphabétisation qui s'est temps déjà avec une 40 bénévoles sur le site de la Croix-Rouge à Villefranche. Sur, et j'insiste, nous allons aider les enfants du foyer Tournesol qui se trouve juste à côté de chez vous et des jeunes bénévoles de votre lycée. 7-8 par an se rendent deux fois par semaine au foyer Tournesol pour aider les petits-enfants scolarisés.
Votre travail en détail plus tard.
Ah, pardon.
Monsieur Guillot, parlez-nous de l'association La Croix-Rouge, de sa création, de ses objectifs et de son fonctionnement. Nous parlerons précisément de votre action par la suite.
Alors, La Croix-Rouge, elle est née au XIXe siècle, lors de la bataille de Solferino, qui se trouve en Italie, Autriche, à l'époque, une guerre assez importante. L'originalité, c'est qu'un Suisse qui s'appelait Monsieur Dunant a rien trouvé de mieux que de vouloir soigner les blessés des deux côtés. Ça se faisait pas à l'époque. Et le principe de la Croix-Rouge, les premiers principes de la Croix-Rouge sont posés comme ça. Dunant s'est battu pendant des années pour faire reconnaître le droit humanitaire. Le droit international humanitaire, et la Croix-Rouge a démarré comme ça. C'est une fédération internationale qui date donc du 19e siècle. Elle a été créée en France vers les années 1854, si ma mémoire est bonne. Je n'ai pas toujours la mémoire des dates. Notre fonctionnement, il y a une Croix-Rouge au niveau national et qui se subdivise entre deux choses un petit peu différentes. Ce qu'on peut appeler les établissements Croix-Rouge, c'est-à-dire il y a des hôpitaux, il y en a un sur Lyon, il y a des centres de formation comme le centre de formation d'assistants sociaux, d'infirmiers, etc., qui se trouve également sur Lyon. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les structures bénévoles, qui regroupent 60 000 bénévoles en France et qui sont présentes dans chaque département et au sein de chaque département dans des unités locales plus petites, plus proches du territoire. Nos activités sont très diverses. Celles qui sont historiques, c'est-à-dire l'urgence et le secourisme, c'est dans l'ADN de la Croix-Rouge, c'est comme ça qu'on a fonctionné dans les guerres. On en parle encore beaucoup aujourd'hui, quand on ouvre l'actualité. Donc l'urgence et le secourisme, mais après de plus en plus, les questions de précarité, l'aide aux personnes. Et donc ça va de la précarité alimentaire, je crois que c'est ce qui nous a réunis aujourd'hui, mais aussi à des gens qui sont en difficulté avec la langue, des gens qui ont des problèmes de différentes natures et auxquels on est censé apporter une aide, ne serait-ce que par exemple en matière de numérique. Aujourd'hui, on a près de 48% des personnes qui sont en difficulté avec le numérique. C'est pas avec, si on veut faire une commande à distance et qu'on sait pas qu'on a une adresse mail, c'est difficile pour le mettre en place. Donc nos activités sont très vastes. Je vous dis 60 000 bénévoles. Sur le secteur, on est à peu près 200. On est en croissance régulière. Et je dirais tant mieux et hélas à la fois. Hélas, ça veut dire que les besoins augmentent de la part des personnes que nous accompagnons. On a un nombre croissant de familles. On suit à peu près, rien que sur Villefranche, près de 700 familles qui passent régulièrement. Et qu'est-ce qu'on leur offre, entre guillemets, si on peut appeler cette expression-là ? Nous ne faisons pas directement de produits alimentaires, en tout cas pas sur Villefranche. On le fait ailleurs, on ne le fait pas sur Villefranche. Des produits puériculture pour les bébés, pour les mamans.
Excusez-nous de vous couper, on en reparlera après plus tard,
oui,
dans l'émission.
Je vous en prie.
Alors, les responsables et animateurs de l'association, sont-ils bénévoles ou salariés? Et qui sont-ils? Et avez-vous des besoins de recrutement?
Alors, les besoins de recrutement, ils sont permanents. Alors, Martine est la responsable du recrutement. On cherche à recruter de tous âges, de toutes catégories, etc., pour les gens qui ont un peu de temps, donner 2 heures par semaine, donner un temps plein. Nous avons
des jeunes.
Voilà. Depuis 3 ans, on s'est un peu rajeunis. On était quand même une vieille bande de retraités. Heureusement, aujourd'hui, on a 20% de jeunes qui sont entrés dans l'association. Ça booste. On l'a cité tout à l'heure, qui sont peut-être dans la salle d'ailleurs. En termes de salariés, on a 1,5 salarié sur Villefranche, une personne qui fait du tri, parce qu'on a une vestiboutique importante, les gens nous apportent des dons ou les entreprises, et on a salarié quelqu'un pour faire cette activité-là qui est assez importante. Et le deuxième emploi, on l'a employé cette année, c'est avec un contrat d'insertion. Cette personne-là est en charge d'aller chercher des moyens, c'est-à-dire de l'argent, des fournitures, c'est-à-dire les entreprises nous donnent, ou les supermarchés nous donnent des produits, etc., pour effectivement permettre aux gens d'avoir un certain nombre de choses qui les concernent. Par exemple, on fait une grosse quête à Cultura, mais là, c'est les particuliers qui nous donnent. 1,5 tonne l'année dernière de matériel scolaire, l'équivalent de 15 000 euros à peu près, et que l'on distribue aux familles que l'on a, plus on en donne aussi à d'autres associations qui ne font pas cette activité-là.
Comme votre présence est ancienne à Villefranche et dans sa région, avez-vous remarqué une aggravation de la pauvreté et de la précarité dans le temps? Et qu'en est-il aujourd'hui?
La précarité, oui, forcément. Ce que l'on a assisté, je dirais, dans le public que l'on accueille. Sur Villefranche, il y a eu une transformation à partir de la crise de 2015. La guerre en Syrie, etc. C'est-à-dire qu'on a eu un afflux important de réfugiés, de gens qui n'ont aucun droit. C'est-à-dire que si par malheur, ils n'ont pas le statut de réfugié, ce qui arrive à un certain nombre d'entre eux, ils n'ont absolument aucun droit. Il y en a qui disent qu'ils sont en trop ici, qu'ils n'ont pas à y faire et qui mangent le pain des Français. Mais en fait, ce sont des gens qui n'ont aucun droit. Et nous, on assume complètement à la Croix-Rouge une aide indiscriminée, c'est-à-dire que les gens aient des papiers ou n'en aient pas. Et il se trouve qu'effectivement, l'afflux de réfugiés importants a généré une augmentation d'un certain nombre de pauvres. En tant que tel. Au-delà de ça, dans la période récente, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la période récente, avec l'inflation, on a une augmentation de la pauvreté, c'est évident. D'accord. Et ça dépend selon les quartiers aussi.
Et existe-t-il des différences dans le domaine de la précarité entre la ville et la campagne?
Oui, il existe plusieurs différences. La nature de la population, parfois, est différente. Il y a beaucoup moins de foyers, bien qu'ils sont construits. On a beaucoup de personnes isolées en foyer. Les problèmes que rencontrent les gens à la campagne, qui sont en situation de pauvreté, ils sont de deux natures. Oser faire reconnaître ses droits, bon, les connaître bien sûr, oser les faire reconnaître, parce que dans un petit village, on peut vous montrer, on a parfois honte d'être pauvre, mais et aussi des problèmes importants de mobilité. S'il y en a qui sont du Beaujolais, vous savez le nombre de bus qu'il y a par jour pour monter là-haut. Il y en a quand même très peu. Quelqu'un qui a besoin de voir une assistante sociale ou essayer d'aller acheter moins cher la nourriture, c'est difficile. Moi, un seul exemple, hier, j'ai acheté un melon dans un magasin bio à Villefranche. Il était 1 euro moins cher comme dans un magasin, un petit supermarché qui est dans les hauteurs. 1 euro de moins sur un melon. Et le melon là-haut coûte déjà deux fois plus cher qu'il ne coûte à Villefranche, à un supermarché. Et les gens, en plus, ont des problèmes de mobilité, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à rencontrer les gens, ils ont du mal à aller chercher leurs droits, d'autant plus qu'il y a de moins en moins de personnels sociaux dans les hauteurs. Donc la nature, la précarité est différente. Ils ne sont pas en ville, ils ne connaissent pas les mêmes difficultés, mais ils ont des problèmes d'isolement très souvent.
D'isolement, oui, c'est la plus grande caractéristique.
Qui sont les bénéficiaires de votre association et comment le deviennent-ils? Existe-t-il des conditions particulières ou des formalités à remplir pour être bénéficiaire?
Notre aide est conditionnelle. C'est-à-dire que quelqu'un qui te frappe à la porte et qui dit « moi, j'ai plus rien à manger », on va pas commencer par lui demander « donne-moi tes papiers, combien tu gagnes, etc. etc. » Après, effectivement, pour les aides régulières, pour les personnes qui viennent régulièrement, nous, ce que nous demandons, c'est qu'ils le fassent sur les critères sociaux, c'est-à-dire que ce sont des travailleurs sociaux. Pour leur faire reconnaître leurs droits d'abord, c'est là l'important, il faut qu'ils passent par un travailleur social, sur une assistante sociale, un éducateur, etc., qui nous envoie une fiche et nous recevons la personne et nous leur offrons un ensemble de droits. Pour tout ce qui est dons ou aides financières, parce qu'on fait des aides financières, pour d'autres activités, comme je donnerais l'inclusion numérique par exemple, c'est-à-dire apprendre à servir dans l'ordinateur, on ne va pas demander effectivement à la personne de venir sur critères
sociaux. Sans condition.
C'est sans condition.
Pour parler des actions de la Croix-Rouge, commençons par l'alphabétisation. Madame Bio, êtes-vous bénévole ou salarié? Et pouvez-vous nous décrire votre rôle d'enseignement en alphabétisation?
Donc, je suis bénévole, comme les 99% de personnes engagées à la Croix-Rouge. Donc, au niveau de l'alphabétisation, appelé apprentissage des savoirs de base. Donc, la plus grande population, ce sont des familles étrangères qui s'installent et qui ne maîtrisent pas du tout la langue. Et ces personnes-là, on les accueille par groupe de deux ou trois, par groupe de niveau. Et on a 150 bénéficiaires de ce type-là, encadrés par 40 bénévoles sur le site de la Croix-Rouge. Et ces personnes-là, dès qu'elles ont atteint un niveau au moins à l'oral, on les prépare à des examens, les DELF, diplômes élémentaires de langue française, qui leur permettent, ces diplômes-là, de présenter un dossier au niveau de la préfecture. Donc il y a des niveaux, DELF A1, A2, B1, et suivant ce niveau d'examen, ils peuvent prétendre à un droit de séjour renouvelable, voire la nationalité. Mais ce n'est pas parce qu'ils peuvent prétendre qu'ils ont, hein, mais c'est un passage incontournable.
D'accord. Et qui sont les personnes qui suivent vos cours? Des jeunes, des familles? Et sont-elles nombreuses? Ces personnes sont-elles généralement des immigrés? Et quelles sont leurs provenances?
Alors, en cours de français sur le site, 33 nationalités. Donc des Afghans, des Turcs, des Ukrainiens plus récemment. Et ces personnes-là, en général, ce sont des adultes. Les personnes viennent en France pour moult raisons. En dehors de ça, dans l'apprentissage des savoirs de base, on s'occupe des enfants du foyer qui est à côté de vous. Ce sont des jeunes bénévoles. On s'occupe des mineurs non accompagnés. Ce sont des jeunes africains qui arrivent avec un nom et un âge. Et qu'on aide au niveau du numérique, de leurs études, qui sont en général des niveaux CAP dans différents domaines. Et on les aide également pour leurs papiers. Et on travaille aussi au niveau des enfants, soutien scolaire dans le programme de réussite éducative.
D'accord. Pouvez-vous nous décrire un de vos cours? Ils sont habituels individuels ou communs? Devez-vous parler plusieurs langues étrangères ou y a-t-il des techniques particulières?
Alors, les cours ont lieu en général par groupe de 2 ou 3. Donc, du lundi matin au samedi midi, les bénévoles se succèdent. Les personnes ont un niveau à peu près équivalent, du grand débutant jusqu'au débutant, celui qui va prétendre à préparer un diplôme de A1, de A2, etc. Ces personnes-là, pour les bénévoles, il ne faut pas croire qu'il faut être enseignant pour enseigner le français langue étrangère. Ça, c'est pas vrai. Mais effectivement, dans la population de bénévoles, il y a 60% d'anciens enseignants à la retraite. Voilà.
Rencontrez-vous des difficultés particulières et avez-vous des besoins spécifiques pour améliorer votre action?
On a besoin de bénévoles, toujours plus de bénévoles. Plus on est, plus on donne. C'est la règle majeure, mais on suit des formations, on est aidé dans notre action par l'agglomération, par la mairie et par l'État pour mener à bien notre mission, sachant que les diplômes sont financés par la Croix-Rouge avec une aide de l'agglo.
D'accord. Je vais revenir vers vous, Monsieur Guillot. Pouvez-vous nous décrire les autres activités habituelles de la Croix-Rouge et vos domaines d'intervention?
Les autres activités, ben, je pense qu'on est là pour ça, entre autres. Dans les autres activités, je pense qu'on a une Croix-Rouge qui est relativement connue, ce qu'on appelle nous l'emblème. On arrive et on se montre. J'espère que ça attire un certain nombre de personnes. L'attractivité, moi, j'espère qu'on est, quand on est à la Croix-Rouge, on s'ennuie pas trop, que les rapports sont plutôt conviviaux entre nous. L'attractivité, ben, c'est aussi accueillir les bénévoles de toute nature, de toute origine. parce que tout le monde a sa place parmi nous. Alors on a parlé longuement des anciens profs du français langue étrangère, mais on a aussi des personnes qui sont des apprenants qui donnent des coups de main. On a un entrepôt assez important à Villefranche, donc il y a tout un travail à faire derrière. Ce matin, par exemple, ils ont chargé 132 sacs de vêtements qui ont été triés dans une remorque. Et c'est du travail, je dirais, hebdomadaire. Donc il y a la place pour faire plein de choses au sein de la Croix-Rouge. Et j'espère que les gens qui y sont s'y trouvent pas trop mal. Et l'attractivité, je pense que c'est nos bénévoles qui l'assurent d'abord, quoi. Et en essayant de faire connaître nos actions, on essaie effectivement d'être présent sur les radios, et à Radio Calade en particulier, à plusieurs reprises. Quand j'étais dans ce lycée-là, les radios étaient interdites, donc c'est toujours un plaisir d'aller sur une radio libre. Donc voilà, l'attractivité, c'est essayer de montrer un visage qui est positif et qui donne envie de faire des choses à ceux qui ont envie de donner un peu de leur temps, un peu de leur énergie. Il y a plein de gens qui aujourd'hui attendent parfois ne serait-ce qu'un sourire. On est dans deux EHPAD. On a des jeunes qui vont le mercredi après-midi, sont des lycéens pour la plupart, qui vont faire de l'animation en EHPAD, en établissement pour personnes âgées. Ben, je peux vous dire que c'est un rayon de soleil qui arrive dans les EHPAD pour des personnes qui sont souvent isolées, qui de temps en temps voient leur famille, mais à peine, voir des jeunes lycéens arriver et faire des choses avec ces anciens-là, bon, il se passe des choses assez belles. Et je pense que ce sont des choses également qui peuvent attirer tout le monde. Alors nous, il faut qu'on le fasse savoir, vous voyez, je vous le dis là, hein. On peut faire de belles aventures. Et voilà, c'est ce genre de choses, à mon avis, qui attire les gens vers la Croix-Rouge. C'est aussi notre indépendance, les valeurs qu'on essaie d'apporter. On essaie de faire en sorte de s'adresser à tout le monde. Et voilà, j'espère globalement que demain, nous serons encore plus nombreux. On est en croissance sur le secteur, hein, puisqu'on s'implante un peu de partout. Bientôt, on aura un local sur Beaujeu. On invitera Radio Calade, d'ailleurs. Et pour pouvoir y accueillir des gens, notamment qui viennent du Haut-Beaujolais.
D'accord. Et en dehors de ces actions, avez-vous des contacts avec les instances gouvernementales et locales? Et quelles sont-elles? Faites-vous des propositions qui sont retenues?
Alors, deux choses. La Croix-Rouge est une organisation d'utilité publique qui est reconnue par décret depuis très longtemps et qui a des prérogatives d'auxiliaire des pouvoirs publics. Donc on a nécessairement, pour l'urgence et le secourisme, hein, dès qu'il y a une catastrophe quelque part, c'est allô, allô, la Croix-Rouge, il y a un incendie à tel endroit, il y a une inondation, nos bénévoles du secourisme se mobilisent. Et vont installer des centres d'accueil, etc. Donc, de fait, on a des rapports étroits avec les pouvoirs publics, ne serait-ce que par ce biais-là. On tient notre indépendance, qu'on ne va pas nous dire ce qu'on a à faire, sauf en matière de sécurité. D'urgence. Sécurité, c'est encore autre chose. Donc ça, c'est au niveau de l'État. C'est vrai également, ensuite, au niveau territorial, au niveau de l'État, puisqu'on a des rapports avec le sous-préfet et le préfet. Et pour ce qui concerne les rapports avec les autres élus, on essaye effectivement d'avoir des rapports avec les élus, je dirais, de tous bords. Hein. Nous, on essaie de faire en sorte, on a des rapports très réguliers avec la mairie de Villefranche. On est présent au CCAS, au Comité communal d'action sociale, excusez-moi d'employer ce terme-là. Lors de notre dernière conférence de presse qui était sur la mise en place d'un partenariat avec Emmaüs Connect, il y avait sur la photo la première adjointe de la ville de Villefranche qui était également vice-présidente de la communauté de communes. Ce sont les élus qui nous aident en facilitant les choses et financièrement. Il est normal effectivement qu'on ait rapport avec eux puisque ce sont eux quand même qui détiennent un certain nombre de clés pour faire terminer les projets. Quoi.
Comment jugez-vous l'impact de vos actions sur les personnes bénéficiaires?
Ah, c'est une bonne question. Quand on voit que des personnes ont réussi leur diplôme, et on atteint presque à 100% les gens que l'on présente, hein, de français, c'est une satisfaction. Et puis on voit, lors de la mise des diplômes, ce serait intéressant que certains d'entre vous viennent voir la remise des diplômes quand elle a lieu à la mairie de Villefranche. Quand vous, dans les yeux des personnes qui ont leur diplôme, vous voyez, c'est la meilleure récompense qu'on puisse avoir. Donc ce sont des choses comme ça qui disent que ça, là, ça a marché.
Et les, pardon si je te coupe, et les bénéficiaires, pour beaucoup d'entre eux, c'est la première fois qu'ils passent un examen. Et c'est vraiment fort pour eux.
Alors, je vais compléter également, il y a un aspect qu'on a oublié, que j'ai oublié et qu'on oublie souvent, c'est la prison de Villefranche. On est présent sur l'ensemble du champ des exclus, entre guillemets, ou des inclus. On a une maraude qui, pour les gens qui sont à la rue, mais on a aussi une activité en direction de la prison, c'est-à-dire qu'on rencontre des détenus isolés, on met en place l'arbre de Noël de la prison. C'est l'occasion pour des pères, c'est une prison pour hommes, de voir leur enfant dans des conditions à peu près correctes. Et aussi, pour faire le lien à ce qui était dit pour le premier diplôme, on fait passer ce qu'on appelle les PS1, sur des diplômes de secouristes. Et c'est souvent pour les personnes qui sont à l'intérieur de la prison leur première réussite scolaire. Ils le voient comme tel. C'est une vraie réussite pour eux et ça transforme parfois les individus. Donc quand effectivement, à la fin d'une session, on remet un diplôme de secouriste à quelqu'un qui est en cabane, eh bien, on voit qu'il a réussi quelque chose de positif. Et voilà, c'est des choses comme ça, des petits liens comme ça qui se disent, bon, ben, ça marche. Et puis c'est la reconnaissance qu'on a. Ça fait, depuis quelques jours, on fait la quête à différents endroits, enfin, sur les journées nationales. Hier, j'étais au marché de Beaujeu. On rencontre des gens qui disent « Moi, je donne tous les mois ». Nous, on ne les connaît pas, ce qu'ils donnent à Paris, de fait. Hein. Mais on voit que la façon dont les gens réagissent, la façon dont ils donnent... Hier, sur Beaujeu, on est passé 3 heures, il y avait près d'une personne sur deux qui donnait. C'est vous dire, sur l'impact que l'on a, sur l'intérieur d'image, voilà concrètement ce à quoi ça correspond, un indicateur que nous avons. Mais il faudra sûrement qu'on en trouve d'autres.
Donc, une dernière question. Avez-vous des besoins particuliers pour développer vos activités, des locaux, des moyens matériels, des dons ou des financements?
Alors, je dirais tout. Je dirais qu'on a besoin de tout ça. Donc, si on était sur les marchés ou si on y sera encore ce week-end, c'est qu'on a besoin effectivement de l'argent supplémentaire. On a un budget important à la Croix-Rouge, hein, mais rien que sur Villefranche, on a 3 véhicules. Une ambulance, un camion, un autre véhicule. Il faut les entretenir. On a des bâtiments qui nous appartiennent, qu'il faut entretenir, sur lesquels il faut faire des choses. Donc effectivement, on a besoin d'argent pour tout ça. On a besoin également de bénévoles. J'ai déjà dit et je le répète encore, pour effectivement mieux avancer. Là, on a essayé d'avoir des salles sur Belleville, on les a obtenues. On vient d'avoir un local qu'on va louer à la mairie de Beaujeu bientôt. On a besoin effectivement de locaux, on a besoin de bénévoles et on a besoin d'argent. Donc tout ça, tout ce que vous avez cité, vous avez tout juste.
Et pour finir, pouvez-vous nous donner les contacts pour rejoindre votre association?
Bien sûr. Alors, un numéro de téléphone classique. 04 74 65 35 60. Une adresse mail. ul.beaujolais-val-de-saône. Tout est lié, mais il y a un S à Val. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs Vals dans le coin. ul.beaujolais-val-de-saône@croix-du-6-rouge.fr. Et bien sûr, vous pouvez aller sur Internet, vous tapez Croix-Rouge et vous arriverez sans problème à nous trouver.
Merci à vous deux pour toutes ces informations.
Ah.
Merci à vous deux pour toutes ces informations.
Merci également.
Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite, qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant, ces régions d'honneur, de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant, vous devez assumer. L'odeur du sang vous poursuit, même si vous vous parfumez. Nous, les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés, ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes, et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Mais pensez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français parqués entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromanes et pompiers, votre mémoire est sélective. Vous n'êtes pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait. Parce que décoloniser pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, ben moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un crash, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narco, trafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Clair Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au constat. Bande d'hypocrites, est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable, et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques, et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays dit des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité, s'acharne à discriminer les mêmes minorités. Face aux mêmes électeurs, les mêmes peurs sont agitées. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir que la France y regarde.
Nous venons d'écouter Lettre à la République du rappeur français Kery James, de son vrai nom Alix Mathurin. Kery James est né en Guadeloupe en décembre 1977. Le rappeur a sorti son premier album en 2001 et son sixième et dernier album en 2016. Il est aussi réalisateur, notamment du film Banlieusard, sorti en 2019 sur Netflix. Ce film est tiré de son morceau du même nom, où il s'engage pour l'émancipation et la réussite des jeunes des quartiers populaires, en déclarant dans son titre « On n'est pas condamné à l'échec ». Dans la même optique, il est également investi dans le monde associatif, pour l'émancipation et la réussite des jeunes des quartiers populaires. Il a lui-même créé l'association ACES, Apprendre, Comprendre, Entreprendre et Survivre. Association qui propose du soutien scolaire aux enfants défavorisés. Dans ses textes, il parle de façon percutante de la banlieue et des inégalités. En particulier dans le morceau que l'on vient d'entendre, Lettre à la République, où il dénonce les discriminations et le racisme en parlant d'immigration et de colonialisme. Pour la suite de l'émission, Lilian et Noé vont nous parler du rapport sur la pauvreté en France de 2022, rapport réalisé par le Secours Populaire. Et Nathan fera l'interview de Madame Anne-Marie Vincent-Giraud, présidente de l'association L'Oasis d'Amour, épicerie sociale et solidaire à Glaizé.
Avec la hausse des coûts du quotidien, seul un peu moins d'un Français sur deux déclare avoir réussi à mettre de l'argent de côté. Et un peu plus d'un Français sur trois réussit à peine à boucler ses fins de mois.
La part de la population qui vit à découvert est d'environ 15%. Mais pour les foyers dont le revenu mensuel net est inférieur à 1200 euros, cette proportion est trois fois plus importante, soit 40%. Et pour plus d'un quart de la population, ils redoutent de basculer directement dans la précarité.
Le premier poste de dépense sur lequel les familles rognent est celui du départ en vacances. Près d'une famille sur deux s'en prive totalement cette année.
Le niveau record du seuil de pauvreté indique que, dans leur vie quotidienne, les Français ont une perception plus pessimiste du nombre de personnes pauvres dans le pays. Ils sont de plus en plus confrontés à la fois dans leur propre vécu et dans celui de leurs proches. environ 60% des Français déclarent constater qu'une personne dans leur entourage leur semble être aujourd'hui touchée par la pauvreté.
Les gens sont bien plus nombreux à avoir connu la pauvreté que peuvent nous laisser penser les chiffres officiels produits chaque année sur le seuil de pauvreté. 38% de la population y ont déjà été confrontés.
Ce niveau se situe très près du record de 41% enregistré pendant la grande crise de 2013.
Radio HLM.
Nous avions prévu une interview avec des membres de l'épicerie solidaire, l'Oasis d'Amour, de Glézé. Malheureusement, ils sont absents. Donc l'interview n'est pas possible. Néanmoins, vous pouvez contacter cette association par le mail suivant epicerie.social69@gmail.com. Cette association est installée dans le quartier de Belleroche et d'une grande utilité pour les personnes en précarité.
La vie est belle, le destin sans les cartes, personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né les poches vides? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? Pourquoi j'ai vu mon père en cycle partir travailler juste avant le sien en trois pièces grises et BMW? La monnaie est une belle femme qui n'épouse pas les pauvres. Sinon pourquoi suis-je là tout seul, marié sans dot? Pourquoi pour lui c'est crèche et vacances? Pour moi c'est stade de foot, sans cage, sans filet, sans même une ligne blanche. Pourquoi pour lui c'est l'équitation? Pour moi les bastons, pour lui la coque, pour moi les flics en faction. Je dois me débrouiller pour manger certains soirs. Pourquoi lui se gave de saumon sur de caviar, certains naissent dans les choux, d'autres dans la merde. Pourquoi ça pue autour de moi? Quoi? Pourquoi tu me cherches? Pourquoi chez lui c'était Noël ensoleillé? Pourquoi chez moi le rêve est évincé par une réalité glacée? Et lui a droit à des études poussées. Pourquoi j'ai pas assez d'argent pour acheter leurs livres et leurs cahiers? Pourquoi j'ai dû stopper les cours? Pourquoi lui n'avait pas de frère à nourrir? Pourquoi j'ai dealé chaque jour? Pourquoi comme moi je plonge, je lui passe sa thèse? Pourquoi les caches d'acier, les caches dorées agissent à leur aise? Son astre brillait plus que le mien sous la grande toile. Pourquoi ne suis-je pas né sous la même étoile?
La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile.
Comme Issa, pourquoi je suis pas né la bonne étoile, veillant sur moi, couloir plein de doigts, de cracha, cha cha, de francs, compète des tapettes devant, supporter de grandir sans un franc, c'est trop décevant, simplement en culotte courte. Pas faire l'appel mécanique plate avec des pots de yaourt, c'est pas grave, je n'en veux à personne et si mon heure sonne, je m'en irai comme je suis venu. Adolescent incandescent, chiant à tour de bras sur le fruit défendu, innocent, témoin de type abattu dans la rue, c'est une enfance de la pourriture, ouais. Je ne drague pas mais virer des tartes aux petites avec les couettes. Pâle de peur devant mon père, ma soeur, porter le voile, je revois à l'école les gosses qui la croient ce poil. C'est rien Léa, si on était moins scrupuleux, un peu de jeu du feu, on serait comme eux. Mais j'ai pleuré pour avoir un job comme un crevard sans boire. Les je t'aime à mes parents seuls dans mon lit le soir. Chacun son boulet sans ambition, la vie c'est trop long. Écrire des poèmes, puis c'est violent dans un violon. Tu te fixes sur le wagon, c'est la locomotive que tu manques. C'est pas la couleur, c'est le compte en banque. J'exprime mon avis, même si tout le monde s'en fiche. Je serais pas comme ça si j'avais vu la vie riche.
La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile.
Le groupe IAM est un groupe de rap français originaire de Marseille créé en 1989. Fondé à l'origine par le chanteur Akhenaton, de son vrai nom Philippe Fradjon, le premier album d'IAM date de 1990. Il est produit artisanalement par le groupe à partir de cassettes enregistrées autoproduites. Mais c'est seulement un an plus tard qu'ils sortent leur deuxième album sous le titre de La Planète Mars. Ils reçoivent un grand écho de la part des médias, leur popularité est lancée. Et en 1993 sort le fameux album Ombre et Lumière avec le titre culte qui deviendra numéro 1 des hits parades pendant 8 semaines d'affilée, Je danse le Mia, qui fait un tabac aujourd'hui encore.
On danse le Mia, je danse le Mia.
Je danse le Mia.
morceau que nous venons d'écouter, Né sous la même étoile, est issu de l'album L'école du micro, sorti en 1997, et qui remporte deux récompenses aux Victoires de la musique et est certifié disque de diamant. Dans ce morceau, le groupe parle de l'injustice, des inégalités et de la corruption par l'argent. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui constate les inégalités et s'interroge sur leurs raisons, d'où les répétitions utilisées dans le texte « Pour moi, pour lui, pourquoi ?». Nous avons choisi cette chanson car elle illustre très bien la thématique de notre émission « La précarité ». Notre émission continue avec la lecture d'un extrait du bilan de la pauvreté en France réalisé par le Secours Populaire qui sera suivi d'une interview de représentants de l'association caladoise Les Bras Ouverts.
Radio HLM.
La précarité sur le palier, la solidarité à chaque étage.
Compte tenu de la dégradation rapide de leur niveau de vie, ainsi que de celui de leur entourage, les Français se montrent surtout très inquiets pour les plus jeunes, qui ont déjà beaucoup souffert de la crise sanitaire.
85% des personnes interrogées, en augmentation de 7 points, considèrent que les risques de voir leurs enfants connaître un jour une situation de pauvreté sont plus élevés que leur génération.
Avec les pénuries qui se profilent, particulièrement dans les domaines de l'énergie et des matières premières, et avec un contexte international instable, le panorama dressé par le baromètre risque encore de s'assombrir dans les mois qui viennent.
Une note d'espoir se fait néanmoins. Les Français plébiscitent la solidarité, aussi bien institutionnelle qu'associative ou informelle. Ils sont toujours aussi nombreux, soit 65%, à être disposés à s'impliquer personnellement pour aider leurs proches, leurs voisins, leurs concitoyens en situation de pauvreté.
Une volonté qui se renforce par le fait de connaître directement une personne confrontée à la pauvreté. Et dans ce cas, la proportion atteint 70%.
Radio HLM.
La précarité sur le palier, la solidarité à chaque étage.
Bonjour Madame Bonin, vous êtes secrétaire de l'association Les Bras Ouverts. Pouvez-vous vous présenter rapidement et nous parler de votre parcours ?
Eh bien, je suis originaire de Villefranche, j'étais enseignante et après avoir beaucoup circulé pour des raisons de travail, je suis revenue sur Villefranche et voilà. Et au moment de la retraite, j'ai eu envie de faire autre chose, donc je suis devenue bénévole.
Très bien, parlez-nous de l'association Les Bras Ouverts, de sa création, de ses objectifs et de son fonctionnement.
Donc c'est une association qui a été créée en 2011 par un petit groupe de personnes qui ont eu envie de faire quelque chose. Donc ça fait déjà 12 ans qu'elle existe. C'est une association locale qui n'est pas du tout rattachée à une autre structure, ce qui a ses avantages et ses inconvénients, puisqu'on a une certaine autonomie et en même temps, on n'est pas aidé par les autres structures, comme certains qui sont au niveau national. On est installé rue Claude Vignard, la rue qui est au-dessus du cinéma. Et notre principal objectif, c'est la distribution alimentaire. Nous avons une cinquantaine de bénévoles. C'est la mairie de Villefranche qui nous héberge. Et toutes les semaines, nous faisons des distributions alimentaires le mardi après-midi et le jeudi après-midi. Et nous avons environ 250 familles qui viennent.
Alors, vous avez parlé des bénévoles. Tous les animateurs de l'association sont-ils bénévoles ou salariés ?
Nous n'avons aucun salarié, nous n'avons que des bénévoles.
Qui sont-ils et avez-vous besoin de recrutement ?
Ce sont souvent des retraités, c'est aussi parfois des bénéficiaires qui nous aident. Par exemple, les chauffeurs sont souvent des bénéficiaires, parce qu'on a besoin de chauffeurs, bien sûr. Et on recrute toujours un petit peu, oui, parce que certaines personnes viennent, repartent, on manque un peu de bénévoles très impliqués.
Le thème de notre émission est la pauvreté et la précarité alimentaire. Pouvez-vous nous donner votre ressenti sur la situation à Villefranche ?
Moi, j'ai un petit peu du mal à juger de la situation générale à Villefranche, mais c'est vrai que la précarité semble augmenter depuis quelques années, depuis le confinement en particulier. Donc on a de plus en plus de demandes, c'est vrai. Heureusement, il y a quelquefois des personnes qui ne viennent plus parce qu'elles ont résolu leurs problèmes, ça c'est bien. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes.
Très bien. Et est-ce que vos bénéficiaires sont-ils plus nombreux au fil du temps ?
Oui, oui, oui.
Existe-t-il des conditions particulières ou des formalités à remplir pour être bénéficiaire de votre association ?
Nous travaillons avec les services sociaux de la ville et puis les services sociaux des différents foyers qui existent à Villefranche. Et nous demandons aux services sociaux de nous remplir un formulaire pour voir ce que la personne touche, ce qu'elle dépense et tout ça. Et après, d'après ce qu'ils nous donnent, nous jugeons si on peut les accepter ou pas. En général, on accepte quand les services sociaux nous demandent. Mais si quelqu'un vient nous demander, c'est quelqu'un nous dit qu'il a faim et vient nous demander de l'aide, on donne un colis de dépannage. Mais pour une aide régulière, il faut que ce soit les assistantes sociales qui nous envoient les personnes.
Merci.
Bonjour Madame Martinez, vous êtes bénéficiaire de l'association Les Bras Ouverts. Comment l'avez-vous connue et comment s'est passé votre accueil?
Alors bonjour, mon accueil, ça fait 12 ans que je vais aux Bras Ouverts. Je l'ai connue l'association par une assistante sociale et l'accueil s'est super bien passé. Ils sont très sympas, accueillants, à l'écoute, attentifs et très chaleureux.
Très bien. Maintenant, parlez-nous de l'aide et du réconfort que vous a apporté cette association.
Alors, l'aide, c'est par rapport aux personnes qu'on est dans le foyer. Donc, nous, à l'époque, nous étions 7 parce que j'ai 5 enfants. Donc, après, nous avons un colis de distribution, que ce soit yaourt, légumes, viande, de tout, quoi. Et moi, j'y vais personnellement tous les jeudis.
Très bien. Depuis que vous connaissez l'association, êtes-vous devenue une bénévole pour l'aider et pourquoi ?
Non, je ne suis pas venue bénévole. Comme je vous ai expliqué, j'ai eu 5 enfants rapprochés. Et là, maintenant, mon but, c'est de rechercher du boulot. Je suis inscrite en boîte d'intérim, donc voilà, recherche du boulot.
Même si vous n'êtes pas bénévole, est-ce que vous avez conseillé cette association à d'autres personnes dans le besoin ?
Oui, quelques amis, oui.
Et êtes-vous bénéficiaire d'autres associations caritatives? Et pensez-vous que l'aide apportée aux précaires est suffisante?
Je ne vais pas aux autres associations, je vais qu'aux Bras Ouverts. Et c'est vrai que c'est toujours pas assez, on dit toujours que c'est toujours pas assez, mais bon, je veux dire, ça dépanne toujours.
Je me retourne vers vous, Madame Bonin. Comment jugez-vous l'impact de vos actions sur les bénéficiaires? Est-il seulement matériel?
Ben non, comme vient de dire Madame Martinez, on a des bons contacts en général avec les bénéficiaires. On les aide aussi parfois pour les papiers, pour les problèmes administratifs, etc. Mais le principal, c'est quand même la distribution alimentaire.
Avez-vous des besoins particuliers pour développer vos activités?
Ben disons, on a, comme je vous disais, on est autonome, donc on a besoin de... On fait des collectes, ça c'est important à dire. On fait la collecte de la banque alimentaire une fois par an. On fait des collectes dans les écoles aussi, par rapport aux cantines. Parfois, on récupère ce que les cantines n'ont pas donné. Et on fait aussi des collectes dans les écoles, c'est-à-dire pendant 15 jours, on peut demander aux gens d'apporter des produits secs. Et puis, on a beaucoup de frais, puisqu'on a les frais d'électricité, de véhicules... Et parce qu'en fait, je n'ai pas expliqué, je ne sais pas si c'est le moment, mais on fait la ramasse tous les matins. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. On va dans les supermarchés de Villefranche avec notre véhicule frigorifique et on récupère ce qu'ils veulent bien nous donner. Et après, on doit faire le tri à l'association. Ils rapportent tout ça parce qu'on doit vérifier toutes les dates, vérifier le bon état des fruits et des légumes. Souvent, il y a beaucoup de déchets quand même, malgré tout, il faut reconnaître. On va aussi 2 fois par semaine à la Banque alimentaire du Rhône. Donc c'est pareil, c'est à Décines, c'est pas tout près. Donc le véhicule, on a besoin du véhicule aussi. Donc nous, on a besoin d'aide financière aussi.
Et je vous coupe. et pour tout ça, pouvez-vous nous donner les contacts pour rejoindre votre association, ainsi vous aider?
Oui, donc c'est 299 rue Claude Vignard. Vous pouvez venir sur place. L'adresse mail, c'est association.lesbrasouverts@orange.fr et le blog bras-ouvert.blogspot.fr.
Avez-vous des précisions à rajouter?
Oui, je voudrais préciser que nous avons dans l'association une brocante qui est ouverte à tout le monde pour nous aider justement financièrement. Je voudrais aussi remercier tous les sponsors qui nous ont aidés au fil des années. Par exemple, la Fondation Caisse d'Épargne qui nous a fourni tout le matériel. La Fondation Auchan aussi, le Rotary Club. Sans eux, on n'aurait pas pu avancer. Voilà.
Très bien, merci. Merci à vous, mesdames, pour toutes ces précisions.
Radio HLM.
La précarité sur le palier, la solidarité à chaque étage.
Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte.
Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Mais si je m'endorme, réveillerez-vous, il fait si froid dehors, le restant des jours. Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes les galères, je reste un homme. Merci bien pour la pièce, en ce moment c'est dur, je confesse. Enfin je vais m'en sortir, je l'atteste. Toujours avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire, à part l'ivresse comme futur. Que tes promesses en veux-tu. Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois j'ai qu'une envie, abandonne. Si je m'endorme, réveillerez-vous. Il fait si froid dehors, le restant est vous. Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous.
Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte.
Claudio Capeo, de son vrai nom Claudio Ruccolo, est un chanteur accordéoniste lyonnais d'origine italienne. Sa carrière a été propulsée après sa participation à l'émission The Voice. Son premier album est classé numéro 1 des ventes en France pendant 5 semaines en août 2016. Ayant personnellement subi des problèmes difficiles de précarité, à deux doigts de dormir dehors, il aborde dans ses titres des questions sociétales, notamment dans le titre « Un homme debout » que nous venons d'écouter. Dans ce morceau, il parle du quotidien d'un sans-abri en interpellant les auditeurs. Le titre de cette chanson fait référence à l'association L'Homme Debout, un chantier d'insertion qui a pour objectif de donner à chaque individu une place dans la société, en privilégiant l'insertion par le travail et l'activité économique. Nous avons choisi cette chanson car elle illustre bien la thématique de notre émission, la précarité et la solidarité. Notre émission continue avec la fin de notre lecture d'extrait du bilan de pauvreté en France, réalisé par le Secours Populaire. Et nous céderons les micros à Camille et Loïc pour une interview des représentants de l'antenne caladoise du Secours Populaire.
Radio HLM.
La précarité sur le palier, la solidarité à chaque étage.
Depuis 10 ans, le Secours Populaire interroge les plus jeunes sur la pauvreté. En 2022, 500 enfants de 8 à 14 ans ont été interrogés et on s'est rendu compte que la plupart trouvaient la pauvreté présente alors qu'elle était souvent considérée comme absente dans leur entourage. 50% des enfants pensent qu'il y a beaucoup de personnes pauvres en France. Les enfants ressentent la pauvreté de plus en plus dans leur famille, mais c'est surtout à l'école qu'ils s'en rendent compte. Ces mêmes enfants déclarent à 80% qu'ils ne connaissent personnellement pas ou peu de difficultés pour se soigner ou encore manger de manière variée et suffisante. Une vision très stable qui peut sans doute être liée à la protection des parents. En revanche, ce voile protecteur disparaît lorsqu'ils observent leurs écoles, collèges ou même lycées. 67% des enfants interrogés estiment que leurs camarades ne vont jamais au cinéma, au musée ou dans les parcs d'attractions. 57% estiment de même que leurs camarades habitent dans un logement trop petit ou en mauvais état. Les enfants ressentent le besoin de solidarité. 9 jeunes sur 10 souhaitent et sont volontaires pour agir à leur manière dans ce mouvement de solidarité. Et un quart se préoccupe de la faim dans le monde, en particulier dans les pays pauvres. Les enfants comprennent bien les problèmes et ils souhaiteraient à 94% agir pour protéger l'environnement et la planète et à 79% aider des personnes qui ont fui leur pays ou encore à 85% pour lutter contre le racisme.
100.9 Calade.
Bonjour Madame Roche, vous êtes présidente de l'association Secours Populaire de Villefranche. Pouvez-vous nous présenter rapidement et nous parler de votre parcours?
Alors, je suis une nouvelle retraitée. Depuis maintenant un an, je suis de parcours un peu atypique, puisque je viens à la solidarité en venant de 35 ans dans l'armée de terre. Je renoue avec un passé estudiantin qui était lié aux associations. À l'époque, il m'a eu des associations de ce type que j'avais pratiquées quand j'étais en faculté. Notre association, le Comité du Secours Populaire de Villefranche, est subordonnée à la Fédération départementale située à Lyon. Le Secours Populaire a été créé dans les années 20. Il trouve son plus grand essor après-guerre, dans les années 40, pour aider à la reconstruction et aider à la resociabilisation des gens. Nous développons dans notre fonctionnement, en suivant les grandes directives nationales qui nous sont confiées, on en parlera plus tard j'imagine, qui concernent les vacances, l'aide alimentaire, des choses comme ça, nos objectifs, au-delà de l'aide matérielle apportée aux gens, et je souhaite qu'on puisse se développer, c'est surtout leur redonner accès à l'autonomie. C'est-à-dire qu'au-delà même de l'aide, le but c'est qu'un jour ils s'en sortent et qu'ils soient susceptibles de quitter notre association.
Parlez-nous de votre association, de sa création, de ses objectifs et de son fonctionnement. Nous détaillerons vos actions par la suite.
Donc en fait, comme je vous le disais, on est créé en 1924 pour être précise. Dans les années 40, après-guerre, au moment de la reconstruction, on intervient pour aider les populations qui souffrent de cette reconstruction. Ça change un peu pendant les 30 Glorieuses et la réindustrialisation. Mais les Français ont accès depuis le Front Populaire aux congés, aux vacances de congés payés. Et à ce moment-là, ils n'ont pas les moyens de partir. Le Secours Populaire va pourvoir à ça. On retrouve encore cette trace aujourd'hui, dans une tradition d'aide au départ de vacances importante. Ensuite, comme toutes les associations, le choc pétrolier, l'immigration, tout ça fait que des vagues successives de personnes, souvent d'origine étrangère, vont venir faire appel à nous. La nouveauté, ça a été dit par mon prédécesseur et par la Croix-Rouge, c'est que dorénavant, des nouvelles populations frappent à nos portes, qu'elles fussent estudiantines, des jeunes qui n'ont pas de possibilités ou de très grandes difficultés à subvenir à leurs besoins. Et bien que Villefranche ne soit pas ville universitaire, on en a quelques-uns. Et surtout, de plus en plus, des personnes âgées à la retraite qui voient leur pouvoir d'achat terriblement amputé et qui sont obligées maintenant de venir frapper à la porte de nos associations.
Qui sont les animateurs de l'association ? Sont-ils bénévoles ou salariés ? Et avez-vous de jeunes bénévoles qui viennent ?
Oui. Alors, sur le comité de Villefranche, nous sommes exclusivement des bénévoles. Soit des bénévoles, la plupart du temps retraités d'anciennes professions, mais de plus en plus des bénévoles anciens ou bénéficiaires en cours qui viennent participer au développement de l'association. Et depuis quelques temps, effectivement, on essaie de rajeunir les cadres, si j'ose dire. Alors, à travers soit des stages liés à la solidarité qui sont imposés dans les écoles par les différents programmes. Actuellement, par exemple, on a une élève de Sciences Po qui est chez nous et qui, dans le cadre de sa formation, doit accomplir un stage de 140 heures, il me semble. Ça a été le cas d'École de commerce lyonnaise qui nous envoie des élèves. Après, le bouche-à-oreille fonctionne, hein. Quand elle a été heureuse chez nous pendant son stage, ben, on en parle et du coup, on a des candidatures. Le pass région favorise ça. C'est aussi la possibilité d'avoir des réductions, notamment sur le permis de conduire, pour les jeunes qui acceptent de venir faire un nombre d'heures en association de 80 heures. Ça leur permet de minorer les frais de permis de conduire. Et bien sûr, on va de plus en plus faire appel au lycée Caladois. Donc je compte bien l'année prochaine venir installer dans vos CDI respectifs des affiches de promotion du Secours Populaire pour raconter un peu notre histoire. Et si je pouvais faire animer ça par des bénévoles, mais qui sont scolarisés dans l'établissement, ça sera encore une plus belle chose.
Le rapport national de votre association démontre que la pauvreté augmente en France. Le constatez-vous à Villefranche ? Êtes-vous beaucoup sollicité ?
Oui, malheureusement, de plus en plus. Toutes les associations s'accordent à dire que on a depuis 2 années un taux de progrès, le terme est impropre, mais un taux de demande qui augmente de 20% à peu près par an. Alors, on nous a donné toute forme d'explication, le Covid, le confinement, mais nous constatons dans les demandes qui nous sont faites que les deux principales causes sont l'inflation, globalement, et la crise économique au sens général.
Pouvez-vous nous décrire les activités habituelles de votre association et vos domaines d'intervention ?
Alors, elles sont très éclectiques. Elles peuvent changer d'une année sur l'autre, parce que le nerf de la guerre, c'est les bénévoles. Et si vous n'avez pas en début d'année les bénévoles susceptibles de les animer, vous êtes obligé de réaménager et de revoir vos objectifs. Pour autant, le Secours Populaire est surtout connu pour son aide alimentaire. Mais au-delà de ça, nous fournissons au comité de Villefranche plus particulièrement une aide vestimentaire gratuite. Nous sommes en mesure de le faire. Nous fournissons un accompagnement administratif aux personnes qui le sollicitent pour les aider à accomplir toute forme de dossier, notamment des dossiers d'accès à des soins médicaux, toute forme de dossier administratif. Nous les aidons si nous pouvons pour les départs en vacances, que ce soit pour des adultes isolés, parce qu'il ne faut pas les oublier, que ce soit pour les enfants à travers des colonies de vacances, que ce soit pour des familles complètes en aidant au financement de leur semaine de vacances en camping ou mobilhome ou ainsi de suite, ou à travers une campagne qui, elle, est nationale, qui s'appelle la JOV, la Journée des oubliés des vacances, qui l'année dernière, pour le comité, s'était déroulée entre le pont du Gard et Frontignan sur 48 heures. Et la Fédération départementale a choisi cette année de favoriser les enfants et de leur offrir une journée dans un parc d'attractions régional dans l'Allier, pour ne pas le nommer directement.
D'où provient ce que vous distribuez, des dons d'organismes, de commerce? Procédez-vous à des collectes de fonds? Quand?
Alors oui, les collectes sont ce que nous appelons chez nous des initiatives, sont multiples. Elles peuvent prendre plusieurs formes et varient d'un comité à l'autre. Il n'y a pas forcément de règles. Néanmoins, on retrouve les collectes alimentaires, principalement. D'ailleurs, je peux vous engager cet après-midi et demain, toute la journée, à aller faire vos courses au supermarché Leclerc à Saint-Georges-Renès et nous laisser à la sortie quelques produits alimentaires. Après, nous nous fournissons également auprès de la Banque européenne, comme beaucoup d'autres associations. Mais c'est de plus en plus difficile parce que l'inflation est passée par là et les prix que nous proposons n'intéressent plus toujours les gens de l'agroalimentaire, qui préfèrent vendre pour de plus gros profits. Au-delà de ça, nous avons des dons, qu'ils soient en nature ou qu'ils soient en liquide, de diverses associations et de divers partenaires publics ou privés.
Et concernant le soutien scolaire, à qui est-il destiné, les jeunes ou juste les enfants uniquement?
Les deux, les jeunes et les enfants, si tant est que les enfants ne soient pas jeunes. Mais cela étant, la difficulté, si vous voulez, c'est l'accompagnement que beaucoup de parents ne peuvent pas faire. J'ai un exemple très précis en tête. Nous avons une bénéficiaire qui est une universitaire afghane. Cette dame, avant le changement politique qui a eu lieu en Afghanistan récemment, était enseignante à l'université de Kaboul. Donc son niveau n'est absolument pas à remettre en cause. Simplement, elle n'a pas la pratique nécessaire de la langue française pour accompagner ses enfants dans leur scolarité. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres de cet accompagnement que nous offrons.
Pour les personnes sans emploi et les sans-abri, comment pouvez-vous les aider?
Alors, c'est l'aide administrative. On en revient à ça, c'est-à-dire que bon, les sans-abri, nous les aidons déjà à travers une aide matérielle. Mais d'ailleurs, comme les autres, que ce qu'elles soient alimentaires ou qu'elles soient vestimentaires, on essaie d'améliorer leur quotidien. Mais après, au-delà, on essaie d'effectuer des travaux de fond pour justement régler le problème administratif. Souvent, ces gens-là sont exclus de la société au sens qu'ils se mettent en marge de toutes les procédures administratives sans cesse plus nombreuses qu'on découvre. Ils ne sont pas mesurés, ils n'ont pas Internet, ils ne sont pas forcément rompus, ils ne savent pas forcément que ça existe. Donc notre aide passe également par là, mettre le pied à l'étrier.
Existe-t-il des conditions particulières ou des formalités à remplir pour être bénéficiaire de votre association?
Alors absolument pas. Pour être bénéficiaire de l'association, si vous venez, comme disait mon camarade de la Croix-Rouge, et que vous nous dites « j'ai faim », vous aurez automatiquement une aide de première urgence qui va être faite. Après, nous procédons à un entretien qui est mené par deux bénévoles. Au cours de cet entretien, on va essayer de définir la situation de la personne qui est face à nous. Quels sont ses besoins? Tout le monde n'a pas les mêmes. Est-ce qu'il faut l'accompagner dans un dossier de carte de séjour? Est-ce qu'il faut l'accompagner dans un dossier de retour à l'habitat? Est-ce qu'il faut l'accompagner dans la scolarisation de ses enfants? Les problématiques sont multiples. C'est à nous de les définir lors de l'entretien pour l'aider au mieux.
Pouvez-vous nous décrire les bénéficiaires des jeunes, des personnes âgées, des familles?
Essentiellement des familles. Dans une grande majorité des personnes que nous aidons, pas plus tard qu'hier, j'ai eu le pourcentage, pour 50%, ce sont des femmes. Nous avons beaucoup donc de femmes isolées avec des enfants. Notre population, c'est une population familiale classique, mais je vous dis qu'il y a tendance à vieillir un peu par l'apport des retraités pauvres qui sont de plus en plus nombreux dans l'agglomération.
Nous recevons deux anciennes bénéficiaires du Secours Populaire. Bonjour. Bonjour. Comment l'avez-vous connu et comment s'est passé votre accueil?
Alors, je suis Léonora Hussaini, je suis bénéficiaire et bénévole chez le Comité Secours Populaire de Villefranche. Et, je fais avec plaisir ce que je peux faire, aider des gens. Je fais la tri à la boutique et l'alimentaire, etc.
Et moi, je m'appelle Sabrina Hermès et ça fait 7 ans que je suis bénévole au Secours Populaire. Je suis ancienne. Et le Secours Populaire, c'est comme une famille pour moi. Il m'a ouvert les portes, il m'a aidée. Et c'est le retour, le réciproque. Voilà. Et je suis responsable en binôme pour la distribution alimentaire. Et je fais aussi les commandes alimentaires à la fédération. Et je suis membre du bureau, secrétaire. Voilà.
Parlez-nous de l'aide que vous a apportée l'association. Cela concerne des biens matériels ou aussi du soutien scolaire pour des enfants ou autres?
C'était des aides alimentaires, aussi des vêtements. On est allé aux vacances aussi, la GOV. La première fois, autant que bénéficiaire, et après, j'étais autant que bénévole et accompagnatrice. Voilà.
Moi aussi, ça fait deux années que j'allais en vacances avec ma famille. J'ai deux petites filles qui sont très heureuses, qui sont profitées de la vacance, et qu'on bénéficie avec les jeunes de la vestiaire, de la boutique. Et aussi comme bénévole, je fais avec plaisir que je peux faire quelque chose pour l'association.
Depuis que vous connaissez l'association, êtes-vous devenue bénévole pour l'aider et pourquoi?
Oui, je suis devenue bénévole. J'étais bénéficiaire et bénévole en même temps parce que je ne voulais pas... C'est comme si vous me donnez, moi aussi j'ai envie de vous donner quelque chose de retour. Alors j'ai commencé dès le début en tant que bénéficiaire et bénévole. Et je suis restée bénévole avec le Secours Populaire parce qu'il m'a ouvert beaucoup de portes et avec beaucoup de générosité. Et je pense ça, c'est une famille pour moi. C'est une seconde famille. Voilà.
Par contre, moi, j'ai commencé comme bénéficiaire. Après, j'ai vu comment ça se passe là-bas, comme des gens, ils sont aides, ils sont besoin d'aider aussi. Et j'ai réfléchi et c'est la plus meilleure chose que je peux faire et je fais avec plaisir.
Avez-vous conseillé l'association à d'autres personnes dans le besoin ou pas?
Oui, je conseille l'association à plusieurs personnes, surtout parce que enfin, je suis bénévole dans d'autres associations et autant que bénévole, je donne des cours de français aussi à la Croix-Rouge. Je suis partout. Et oui, je conseille trop l'association, oui. Parce qu'on aide beaucoup des gens. Ce n'est pas que l'alimentaire. Il y a l'alimentaire, il y a les vêtements, il y a les vacances, il y a l'aide à la personne, vraiment à la personne. Voilà.
Oui, moi aussi, pareil, je conseille à toutes les gens qu'ils peuvent faire quelque chose, qu'ils peuvent travailler bénévole, qu'ils peuvent aider des gens. Et même dans la boutique, quelquefois, ça vient des gens qui ne voient pas, même pour payer quelque chose, ou ils ne voient pas l'argent.
Pensez-vous que l'aide apportée aux précaires, généralement, et à Villefranche, est suffisante?
Tout dépend. Elle vous a dit d'ailleurs, Nathalie, c'est vrai, tout dépend les familles, tout dépend la personne, de quoi elle a vraiment besoin. Il y a des personnes qui ont besoin, par exemple, la dernière fois, Nathalie, elle a reçu des personnes qui ont besoin juste de l'hygiène, parce qu'ils ont de l'alimentaire autrement, mais ils n'ont pas l'hygiène. Ça veut dire qu'on lui fait des cartes juste pour l'hygiène, une fois par mois. Voilà. Oui. C'est tout dépend des besoins des gens. Oui. Et la plupart, ils ne viennent pas que au Secours Populaire, parce que nous, on n'a pas le frais. Ce n'est pas comme les restos ou bien comme les bras ouverts. On n'a pas la ramasse. C'est des commandes qu'on fait à la fédération, au niveau de la banque alimentaire, la banque européenne.
Je me retourne vers vous, Madame Roche. Comment jugez-vous l'impact de vos actions sur les bénéficiaires? Est-il seulement matériel?
Non, je ne crois pas. Et je crois d'ailleurs nécessaire qu'il ne soit pas que matériel. Beaucoup de gens viennent chez nous dans une détresse autant psychologique que financière. Et ça, il ne faut absolument pas qu'on l'élude. la solitude frappe de plus en plus les gens. Donc ils viennent déjà pour avoir un contact, parler à quelqu'un. Et alors c'est vrai, autant pour les bénévoles que pour les bénéficiaires. J'ai des gens qui sont bénévoles par un souci de resociabilisation. Des gens qui viennent de prendre la retraite, pour qui d'un seul coup c'est le vide. Qui un matin se lève sans objectif particulier pour la journée, ils viennent recréer ça chez nous. Ils se recréent un cercle social tout simplement. Ensuite, l'aide donc à ces bénévoles suffisante, c'est, je pense, non. Parce qu'encore une fois, le besoin est gigantesque. Et comme le soulignait Sabrina, les associations caladoises se complètent en fait. On a beaucoup d'associations, malheureusement, dans le domaine de la solidarité, parce que la Croix-Rouge était là, les Bras ouverts étaient là. Je ne veux pas oublier, parce que nous partageons, nous, notre bâtiment avec eux, à la différence de la Croix-Rouge, nous ne sommes pas propriétaires de nos locaux. Et la mairie nous permet de partager ce bâtiment avec les Restaurants du Cœur et les Secours catholiques. Et on se rend compte, en discutant de façon transversale, sans oublier Notre-Dame des Sans-Abris, l'Oasis de Glaizé, qu'en fait, le besoin est gigantesque.
Localement, qui vous aide à Villefranche ? La mairie, l'agglomération, les particuliers ? Et avez-vous besoin précis pour développer vos activités ?
Oui, bien sûr. Alors l'argent, est, ça ne sera pas une surprise pour vous, le nerf de la guerre. Les bénévoles également, les deux ressources. Alors, pour être plus précise, dans le milieu entrepreneurial local, nous travaillons effectivement avec les entreprises qui souhaitent nous aider. L'année dernière, pour vous donner un exemple, l'école d'esthétique Sylvia Terrade, le groupe Kunenagel, a participé à travers leur comité d'entreprise et à travers les élèves pour l'Institut de beauté à des remises de cadeaux de Noël seconde vie qui nous ont permis, à l'occasion du Noël dernier, de remettre des cadeaux à plus de 160 enfants. Donc là, nous travaillons de cette façon-là. Ensuite, ce qu'on appelle les institutionnels, à travers les subventions, nous permettent de travailler également. Que ce soit l'agglo, que ce soit les différentes municipalités qui la composent, les mairies bien sûr de Villefranche, mais de Glaizé, d'Arnaz, de Morancé, aident en fait à notre fonctionnement. Nous faisons des demandes sans cesse, en fait, si vous voulez, pour toutes les associations, la course aux subventions, c'est un sport national. C'est-à-dire qu'on a effectivement besoin de ça. Alors, malheureusement, selon les années, ces institutionnels nous donnent plus ou moins d'aides. Alors, les raisons pour lesquelles ces aides fluctuent, il ne m'appartient pas de les juger, mais tout le monde comprendra rapidement, d'une année sur l'autre, selon les objectifs. Ça augmente et ça descend. Après, les particuliers. Alors oui, les particuliers, un grand merci. Si vous venez un jour assister à une collecte alimentaire, par curiosité, vous vous rendrez compte que ce n'est pas nécessairement les gens les plus riches dans la vie qui nous font les plus beaux cadeaux. Vous vous rendez compte que, j'aime pas le terme, mais des petites mamies, c'est dans ma voix, c'est vraiment très gentil, très doux, viennent nous offrir à la sortie qui un kilo de pâtes, qui un kilo de sucre, pour aider son prochain. Et parce que beaucoup dans leur vie ont eu un jour besoin d'une association solidaire, quelle qu'elle soit.
Pouvez-vous nous donner les contacts pour joindre votre association ?
Alors, vous pouvez déjà venir nous voir physiquement les lundis et les jeudis au 190 rue Gantillon à Villefranche. Au-delà de ça, vous pouvez nous joindre au 04 74 60 65 58. Enfin, nous sommes joignables par Internet à l'adresse suivante, secours avec un S, pop.villefranche, tout en minuscule bien sûr, @orange.fr.
Merci à vous pour toutes ces précisions.
Merci de votre accueil.
Merci.
Radio HLM.
La précarité sur le palier, la solidarité à chaque étage.
Nous arrivons au terme de notre émission. Nous remercions nos professeurs qui nous ont accompagnés dans ce projet. Un grand merci également à nos invités, la Croix-Rouge, le Secours Populaire, l'épicerie solidaire L'Oasis d'Amour et l'association Les Bras Ouverts qui ont permis à la classe DSTI2D2 de réaliser cette émission. Merci enfin à Radio Calade qui nous a aidés à concrétiser notre travail d'éducation morale et civique en direct du lycée Louis Armand de Villefranche-sur-Saône. Si l'émission vous a plu, vous pouvez la réécouter sur le site de radio www.radio-calade.fr et sur ses réseaux sociaux. Merci de nous avoir écoutés. C'est la fin de Radio HLM, la précarité sur le palier de la solidarité à chaque étage. Au revoir.
Radio HLM.
La précarité sur le palier, la solidarité à chaque étage.